Classique 21, la chronique économique, avec Hamid Faljaoui.
On dit souvent que l'or est une relique barbare, un actif du passé, quelque chose que l'on ressort quand on ne sait plus très bien quoi faire. Et pourtant, l'an dernier, en 2025, l'or n'a pas seulement rassuré les investisseurs, il leur a littéralement parlé. Et c'est vrai qu'en un an, il a signé l'une des meilleures performances modernes, avec une envolée de plusieurs dizaines de pourcents, bien au-delà de la plupart des grandes classes d'actifs. Et c'est vrai que dans un monde théoriquement dominé par les actions américaines, la technologie et un dollar encore puissant, ce n'est pas anecdotique. Et pendant que l'attention, eh bien, elle restait braquée sur la bourse, sur l'intelligence artificielle, eh bien, c'est l'or qui a discrètement pris la tête du peloton. Alors pourquoi ? Mais parce que l'or ne réagit pas à la croissance, il réagit au doute. Et c'est vrai que depuis un an, les marchés doivent composer avec ce qu'ils détestent le plus, à savoir l'imprévisibilité politique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a remis donc ce facteur au centre de la grille de lecture. Droits de douane élargis, pression verbale sur la Banque Centrale Américaine, tension avec des alliés historiques, on le voit bien avec le Groenland, menace géopolitique assumée. Pour un investisseur, ce n'est pas un débat idéologique, c'est vraiment un paramètre de risque supplémentaire. Et une fois que le doute est installé, eh bien, les comportements changent. On ne cherche plus à faire le meilleur coup, on cherche d'abord à éviter le plus mauvais des coups. Et c'est exactement ce que raconte l'histoire de l'or. Il n'est pas acheté parce qu'il est entre guillemets bon marché, ce qu'il faut, mais parce qu'il ne dépend de personne, ni des banques centrales, ni des déficits publics, ni des promesses électorales. Il existe par lui-même, point barre. Et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de regarder qui achète. Alors pas seulement des traders ou des fonds spéculatifs, mais beaucoup de banques centrales, la Pologne, la Chine, le Kazakhstan, la Turquie, l'Inde, les pays du Golfe. Alors certaines de ces banques accumulent mois après mois, y compris lorsque les prix montent. C'est donc pas un pari tactique, c'est vraiment, on pourrait dire, une politique de sécurité. Alors historiquement, ce genre de mouvement n'arrive pas vraiment par hasard. La dernière fois que l'or a autant surperformé les actions américaines, c'était en 2008, au cœur de la crise financière des subprimes. Avant ça, au début des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet, et encore avant, à la fin des années 70, dans un monde secoué par l'inflation et les chocs géopolitiques. Alors la grande différence aujourd'hui, c'est que le désordre ne vient pas de la périphérie du système, il vient de son centre, des États-Unis. Le dollar recule par moment, l'or s'apprécie et les actifs dits « refuge » entre guillemets reviennent à la mode. Pas parce que tout va forcément s'effondrer, mais parce que plus personne ne considère la stabilité comme acquise. Les investisseurs ne fouillent pas le système contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils se payent surtout une sorte d'assurance contre ces excès. L'or ne prédit donc pas une catastrophe, il signale simplement que la confiance est en train de s'effriter. Et dans un monde où la stabilité américaine servait de pilier au système financier, eh bien, c'est vrai, comme le dit mes confrères du Financial Times, ce signal mérite d'être pris très au sérieux. Et la vraie question n'est donc pas de savoir si l'or est trop cher, mais pourquoi, dès que la visibilité se dégrade, les investisseurs cherchent un actif qui ne dépend ni d'un gouvernement, ni d'une banque centrale. Alors, la réponse, très modestement, c'est parce que, en période de doute, quand le risque devient impossible à quantifier, eh bien, on ne cherche pas un rendement, on cherche à réduire son exposition.
Réécoutez la chronique économique sur Ovio.